Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent par Internet ou par le biais des réseaux sociaux. Bienvenue aux personnes nouvelles de notre paroisse qui franchissent le seuil de ce temple peut-être pour la première fois. Que chacun de vous se sente ici, chez lui, pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole, la méditer. Alors aujourd'hui, plusieurs fêtes nous réunissent. Tout d'abord, nous fêtons le baptême d'une petite fille, nouvellement arrivée au foyer de Pierre et Gladys. Bienvenue aux parents, parrains, marraines et à toute la famille. Ensuite, nous fêtons la Réformation, une fête très modeste mais très importante pour les protestants que nous sommes, où l'on se souvient du jour où Martin Luther a affiché le 31 octobre 1517 95 propositions pour réformer l'Église de son époque. C'était le coup d'envoi de la réforme qui a donné naissance au protestantisme. Et la réforme remettait au centre de la foi chrétienne la lecture de la Bible. Cette année, nous nous souviendrons en même temps que la Réformation, le 50e anniversaire de la Concorde de Leuenberg, une charte fondamentale qui établit et réalise l'unité de l'Église entre les différentes traditions de la Réforme en Europe. Ce document déclare la communion ecclésiale entre les églises luthériennes, réformées, unies, vaudoises, sans oublier les frères moraves. Elle a été signée en 1973 au centre séminaire de Leuenberg, près de Bâle, en Suisse. L'Église chrétienne se construit petit à petit avec des avancées, avec des reculs, des déchirures, des remises en question et des réconciliations. Avec la Réformation, l'ordinaire devient le lieu de l'action et de la révélation de Dieu, comme l'écrivait Raphaël Picon dans un éditorial consacré justement à cette fête. Pour beaucoup de familles composées de protestants et de catholiques, ce week-end est aussi un moment, ou cette semaine est particulièrement importante, où chacun se souvient des êtres chers qui ont quitté cette vie. Prenant en compte la peine des familles endeuillées, sans oublier que nous n'avons pas à obtenir par notre prière quoi que ce soit pour les défunts, puisque nous sommes convaincus qu'ils sont dans la grâce de Dieu, eh bien, nous rendrons grâce au moment de la prière du Notre Père pour la vie de celles et ceux qui sont décédés entre novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui et qui étaient liés à l'oratoire du Louvre directement ou par leurs proches. Leurs noms seront lus pendant la prière d'intercession juste au moment du partage de la Sainte Cène. Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue à Sacha Dénin qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Merci Sacha. Et je vous invite à vous unir dans la communion fraternelle par le premier chant du livret inséré au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, je vous invite à vous lever. Dieu, tu es avant toute chose. Tu es au-delà de toute chose. Tu es en toute chose. Nous reconnaissons ta présence dans les anciens textes d'Israël, dans les oracles des prophètes, dans la vie des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples, fiers de leur puissance ou se débattant dans leur faiblesse. Nous reconnaissons ta présence. En Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les pauvres et les affamés, dans sa vie brisée par l'indifférence et le mépris, nous reconnaissons ta présence. Avec les innombrables hommes et femmes qui t'ont loué avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs, nous célébrons la puissance de ta bonté et la force de ta compassion. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange et nous prendrons maintenant le chant du psaume 98. Psaume 98, dont nous chanterons les strophes 1 et 3. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Prions ensemble. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la force de gravir celle qui se dresse sur mon chemin. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans, mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la confiance quand les eaux s'agitent. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi de me réjouir des grandes choses que tu fais. Je n'ai pas, Seigneur, la foi comme un grain de moutarde. Elle est si petite, la foi qui est la mienne. Mais elle me rappelle chaque jour comme j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon aide. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Et nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Prenez place. Alors, chers amis, dans notre Église, on peut demander le baptême à tous les âges. Et donc, Pierre et Gladys ont demandé le baptême pour leur fille. Chers amis, l'Église accueille aujourd'hui votre désir avec joie et elle obéit à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous croyons que cela est vrai pour chacun et chacune, petit ou grand, même pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, le premier. Alors j'invite maintenant les parents, parrains et marraines à me rejoindre avec votre enfant. On va se mettre de part et d'autre des fonts baptismaux. Ce serait super. Voilà. On va se mettre par là. Merci. Alors, votre fille va être baptisée au nom du Père. Dans la foi, nous appelons Dieu Père de tous les humains. C'est lui qui donne le souffle de vie à chacun et chacune. Elle va être baptisée au nom du Fils. Dans la foi chrétienne, le Fils, c'est Jésus, le Christ, dont on découvre l'histoire et le message qu'il a donné de la part de Dieu dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jésus l'appelle à le servir un jour dans l'Église ou ailleurs. Et c'est en grandissant que votre fille verra comment cela se réalisera. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit. Dans la foi qui est la nôtre, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit dans lequel a travaillé Jésus tout au long de son ministère. C'est une force intérieure qu'il a transmise à tous et à toutes et qui fera naître en nous, comme en votre fille, la foi, l'espérance et l'amour. Il est déjà présent en elle comme en chacun de nous. Alors j'invite l'Assemblée à se lever pour être témoin de ce baptême. Et je demanderai, voilà. Oui, voilà. Et comme ça, tu me tiendras tout à l'heure le... Oui, coucou ma chérie. Hé, tu me reconnais ? Oui. Ah. Alors, quel nom avez-vous donné à votre enfant ?
Raphaël.
Raphaël. Raphaël, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ouh. Tout va bien. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Oui, c'était de l'eau, absolument, je confirme. Voilà, ça va comme ça? Oui. Alors, pour toi aussi, tu ne le sais pas encore, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci. Et je laisse la parole maintenant aux parents, parrains et marraines pour un témoignage de foi.
Chères familles, amis et membres de l'oratoire, aujourd'hui, nous avons la joie de baptiser notre fille Raphaël devant Dieu et devant vous tous.
En tant que parents de Raphaël, nous désirons exprimer notre engagement à l'élever dans la foi chrétienne en suivant les enseignements de Jésus-Christ et en nous appuyant sur la Bible.
Nous croyons en la grâce de Dieu et en la vie éternelle offerte par Jésus-Christ. Nous souhaitons que notre fille grandisse dans la connaissance de l'amour de Dieu et qu'elle puisse un jour faire sa propre profession de foi.
Nous nous engageons à donner à Raphaël les enseignements de la Bible et à la soutenir dans son développement spirituel. Nous désirons qu'elle apprenne à marcher avec Dieu et à se laisser guider par son esprit tout au long de sa vie.
En tant que parents, nous promettons de chercher la sagesse de Dieu pour élever Raphaël avec amour, patience et grâce.
Nous remercions également chacun d'entre vous, membres de cette communauté, pour votre soutien, vos prières et votre amour, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette belle responsabilité d'élever un enfant dans la foi.
Ainsi, aujourd'hui, Raphaël reçoit le baptême et nous prions qu'elle porte l'amour de Dieu partout où elle ira. Nous avons confiance en l'amour de Dieu qui la soutiendra tout au long de sa vie.
Amen. Amen.
Merci. Et je passe la parole à la marraine et aux parrains.
Raphaël, lorsque tes parents m'ont demandé d'être ta marraine, j'ai accepté ce que je considère être comme un magnifique présent, avec beaucoup d'humilité et de joie. Tu es venu égayer la vie de Gladys et Pierre depuis 2 ans, et vous formez tous les 3 une famille aimante et chaleureuse. Aujourd'hui, tu viens agrandir la famille des enfants de Dieu, la famille des croyants, petits ou grands. J'ai l'honneur de faire partie des grands et d'avoir la responsabilité à partir d'aujourd'hui d'être ta marraine. La mienne a beaucoup compté pour moi. J'espère pouvoir être pour toi un guide, une épaule pour tes joies et tes tristesses, une source de lumière pour t'éclairer lorsque tu en auras besoin. Croyant en un même Dieu avec des pratiques différentes, car je suis catholique et tu es protestante, j'espère pouvoir t'offrir la possibilité de vivre la richesse de la différence. Car c'est en rencontrant l'autre et par la discussion avec l'autre qu'on apprend à mieux se connaître soi-même. Je vais te lire juste 4 petites lignes d'un psaume que j'aime beaucoup. C'est le psaume 22 qui exprime la quiétude de savoir que Dieu est présent et que chaque être humain a du prix à ses yeux. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Raphaël, quand tes parents m'ont demandé d'être ton parrain, j'ai été envahi d'une très grande joie et aussi de beaucoup de bonheur. Je n'ai pas eu d'hésitation et j'ai tout de suite accepté ce rôle. Maintenant, tu me demanderas, mais c'est quoi être parrain? Alors, en quelques mots, car je pense que quelques mots valent 1000 mots et qu'il vaut mieux être succinct et précis. Pour moi, être ton parrain, c'est faire de mon mieux pour te guider dans ta vie et t'aider à prendre les meilleures décisions, dans quelque domaine que ce soit. Je te soutiendrai à travers les épreuves, je t'épaulerai dans tes moments de doute, je serai à ton écoute et bien évidemment, je serai là pour tous tes moments de bonheur, de joie à venir. Je te souhaite également une vie remplie de bonheur, de rire, de découverte et d'amour, et que la grâce de Dieu soit avec toi.
Merci, parents, parrains et marraines. Je vais vous inviter à cheminer dans l'allée à droite et à gauche pour présenter Raphaël. Alors, frères et sœurs, voici donc Raphaël. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à ses proches le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Raphaël, parents, parrains et marraines, vous tous témoins de ce baptême, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et les renouvelle chaque jour, que l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer garde vos cœurs, vos engagements et vos vies dès maintenant et à jamais. Amen. J'invite l'Assemblée à prendre le chant du cantique 204, les strophes 1 et 2. Et pendant ce temps, j'inviterai les parents, parrains et marraines de Raphaël à signer le registre des baptêmes. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Je vous invite à reprendre place. Et j'invite Sacha à faire une petite improvisation de 2 minutes 30, le temps que je monte en chair.
Ce matin, deux lectures prises dans le Nouveau Testament, choisies par Pierre et Gladys pendant la préparation de ce baptême. Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et il les bénissait en leur imposant les mains. Et voici maintenant un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. Amen. Je vous invite maintenant à prendre dans le recueil Louanges et prières le numéro 254. 254, ô Seigneur, ta voix m'appelle. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Éternel, dans cette Bible offerte à la lecture de tous par la réforme protestante, nous venons de lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux qui ont édifié nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit qui interroge les mots écrits dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la réforme. Et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Amis, frères et sœurs, quel est le point commun entre le baptême d'une enfant, la fête de la Réformation, l'anniversaire de la Concorde de Leuenberg et le souvenir des défunts de notre paroisse? Tout simplement le fait qu'un jour au XVIe siècle, dans l'histoire tumultueuse de l'Église universelle, un homme, moine et prêtre de son état, Martin Luther, découvre, ou plutôt redécouvre, la grâce de Dieu dans sa vie et avec elle, comment l'ordinaire du quotidien devient le lieu de l'action et de la révélation de Dieu, comme nous l'avons dit en préambule. C'est désormais chez soi ou en nous, et surtout là où nous sommes, là où nous en sommes, que s'exerce la piété, selon les mots mêmes de Luther dans son traité des bonnes œuvres. Je cite « De là vient le surprenant et juste jugement de Dieu, selon lequel parfois un homme pauvre et méprisé accomplit chez lui, dans sa maison, de nombreuses et grandes œuvres, loue Dieu d'un cœur joyeux dans les bons jours et l'invoque de toute sa confiance dans l'adversité et, ce faisant, accomplit une œuvre bien plus grande et plus agréable qu'un autre qui jeûne souvent, fait des pèlerinages et ici et là s'efforce d'accomplir des actions d'éclat. » Fin de citation. Autrement dit, un être humain accomplit de grandes œuvres là où il est lorsqu'il fait joyeusement monter sa reconnaissance à Dieu avec ses propres mots de tous les jours, ou au contraire, quand il implore Dieu de tout son cœur, quand il traverse la détresse, le chagrin, la révolte, la trahison, la souffrance, le deuil, l'abandon. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Au cours de ce culte, lorsque nous chantons notre reconnaissance pour le baptême de Raphaël, ou lorsque nous confierons tout à l'heure notre désarroi et notre solitude, lorsque nous entendrons les noms de celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent, écrivait en son temps l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et c'est avec ces mots d'une simplicité confondante que l'Évangile rejoint l'être humain dans ce qu'il vit de plus profond, rappelant en toile de fond le ministère du Christ, parcourant les routes de Galilée et de Judée, partageant avec chacun et chacune une prédication audacieuse, celle de sa compréhension de Dieu, un Dieu et une humanité pensés ensemble. Nous venons de baptiser Raphaël et en mettant un peu d'eau sur sa tête, nous avons rendu visible la grâce invisible de Dieu. Cette grâce mentionnée dans la lettre aux Éphésiens au tout début, au chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sinon que c'est absolument la grâce qui sauve, une grâce que nous n'avons pas à produire mais à recevoir puisque c'est un don de Dieu. Et voilà le cadeau que nous venons de faire à Raphaël. Mais comment va-t-elle pouvoir accueillir un tel cadeau? Il va lui falloir du temps, comme pour nous tous. Au fur et à mesure qu'elle grandira, elle prendra le temps de découvrir des textes bibliques à travers lesquels, et c'est loin d'être facile, elle découvrira comment les croyants des temps anciens ont découvert l'amour fou de Dieu pour sa création. Elle découvrira aussi comment elle pourra accueillir en Jésus, l'homme de Nazareth, la présence de Dieu et la puissance de son amour pour chaque être humain et donc pour elle-même. Et cela ne se fera pas sans mal, ni sans déchirement, ni sans remise en question, car il faudra aussi reconnaître la puissance de l'amour de Dieu dans ce Jésus qui sera crucifié tel un malfaiteur. Il lui faudra aussi beaucoup de patience pour découvrir ce joyau de l'Évangile au cœur d'une humanité qui ne cesse de se déchirer. Elle s'apercevra aussi qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'une religion qu'on imaginait bonne était en train de faire fausse route, par exemple du temps de Jésus, lorsqu'elle interprétait avec exagération les commandements de Dieu en y enfermant les êtres humains dans une prison de culpabilité. Et on ne peut s'échapper d'une telle prison que par la transgression. Et c'est tout le paradoxe, voire peut-être même la subversion de l'Évangile. Jésus transgresse la loi humaine qui enfermait la loi de Dieu. Sa véritable transgression, c'est de parcourir les routes de son pays en guérissant les lépreux, les femmes hémorragiques, les aveugles et les paralysés, et en accueillant les enfants dans le cercle des adultes, en précisant que chacun doit ressembler à un enfant pour comprendre cette grâce de Dieu. Pourtant, mes amis, cette façon de faire n'est pas nouvelle. D'autres prophètes étaient venus avant Jésus dénoncer d'autres exagérations, d'autres injustices, d'autres perversions de la religion par rapport à la loi de Dieu et à son interprétation. Cette loi qui magnifiait Dieu au détriment de l'homme, au détriment du prochain. Il y a donc pour les croyants de tous les temps une possibilité de réformer la religion, en particulier les institutions religieuses qui malmènent la parole de Dieu pour en faire une doctrine destinée à servir l'institution en asservissant les fidèles, comme c'était le cas au XVIe siècle avec la pratique incontournable des indulgences destinée à garder le peuple dans la peur de Dieu. Mais au fond, le réformateur de tous les réformateurs, c'est bien Jésus de Nazareth. Parce que là où la religion prononce une sentence, un interdit, une condamnation ou un marchandage, Jésus vient redresser ce qui est déformé par l'interprétation que les hommes font de la parole qui bien souvent les servent en premier au lieu de servir leur prochain. Il vient réformer du point de vue de la foi la parole que les hommes ont confisquée ou enfermée dans un rituel perdant tout son sens. Et Jésus vient dire simplement à tous que la prière du cœur est infiniment plus grande que tous les sacrifices. Il vient dire aux aveugles, aux infirmes, aux malades de toute catégorie, exclus du culte par une loi religieuse pointilleuse, qu'ils sont accueillis à nouveau et à égalité avec les autres croyants. Et ce message, je le crois, n'a pas pris une ride aujourd'hui. C'est ce même message que les disciples devenus apôtres transmettront à leur tour, comme Paul, on le suppose, le fait en écrivant aux Éphésiens. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. De quel appel s'agit-il si ce n'est celui de la grâce inconditionnelle de Dieu? Mais ce n'est pas facile du tout de vivre de cette grâce. Alors ce serait peut-être plus simple avec cette définition. La grâce inconditionnelle de Dieu, c'est ce que Dieu aime sa création et chacune de ses créatures, autrement dit l'autre, quel qu'il soit, même mon ennemi, autant qu'il m'aime moi. Et au fond, c'est ce que Paul expérimente lorsqu'il est en prison à Rome. D'ailleurs, un autre disciple, Jean, dira dans l'une de ses lettres, « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, le premier. » Et nous l'avons redit au baptême de Raphaël. Alors il faut du courage, je le crois, pour faire confiance à un tel amour. C'est un courage qui prend son temps et que le théologien Paul Tillich définira comme étant le courage d'être, qui est aussi le titre d'un de ses livres. et que l'on peut encore résumer par ces mots. Le courage d'être, c'est le courage de s'affirmer soi-même en surmontant tout ce qui nous met en incapacité d'exister. Il écrit encore ceci, au centre du courage, de la confiance, se trouve le courage d'accepter, d'être accepté en dépit de la conscience de la culpabilité. Luther et en fait toute son époque ont fait l'expérience de l'angoisse, de la culpabilité et de la condamnation. Ce fut la forme principale de leur angoisse. Le courage de s'affirmer soi-même en dépit de cette angoisse est ce courage que nous avons appelé le courage de la confiance. Il s'enracine dans la certitude personnelle, totale et immédiate du pardon divin. On pourrait dire que le courage d'être est le courage de s'accepter soi-même comme accepté en dépit du fait que l'on soit inacceptable. Fin de citation. Dieu nous aime avec notre diversité, avec ce qui fait notre particularité, notre originalité. Et c'est ce que l'apôtre Paul, avec ses disciples, avait compris de ce message d'évangile qui pouvait s'adresser aux Juifs de son époque, pétris de la Torah, comme aux païens qui avaient une autre culture religieuse et une philosophie différente. C'est ce passage que nous avons entendu, retenu par les parents de Raphaël, ce message qui ressemble à un programme d'action balisé par l'amour respectueux comme moteur de l'édification mutuelle, l'unité de l'esprit et les liens de la paix que tisse la réconciliation. Ainsi que l'écrit le professeur François Vouga dans son petit livre que je vous recommande, « Une société en chantier ». Le passage que nous avons lu se résume autour d'un axe porteur, celui de l'unité, défini par ces mots « un seul corps, un seul esprit, une seule espérance » à laquelle nous avons été appelés, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais ces mots sont difficiles à recevoir, parce qu'on peut y entendre une sorte d'exclusion, celle que nous combattons. Par ce petit mot « seul » qui revient comme un refrain, on peut entendre à juste titre qu'il n'y a pas d'autre Seigneur, pas d'autre espérance, pas d'autre foi en dehors de ce que nous reconnaissons, comme s'il s'agissait d'une uniformité à bâtir. Alors, attention, ne nous laissons pas égarer dans ces suppositions, parce qu'au moment où ces pages sont écrites, nous sommes à l'aube du christianisme. Et ce que l'apôtre Paul enseigne ici, c'est non seulement une uniformité excluante, mais une réconciliation des diversités. Dieu est un, mais la façon de l'accueillir dans la foi est diverse, parce que les êtres humains sont créés dans une diversité infinie. Chacun, dans sa diversité, peut se reconnaître dans cet amour inconditionnel de Dieu selon son parcours de vie. Et Raphaël découvrira l'incroyable diversité du christianisme dans lequel elle est reçue aujourd'hui. Elle découvrira ses divisions jusqu'au schisme parfois, mais aussi ses réconciliations comme la Concorde de Leuenberg qui a conduit 2 ans plus tard, en 1975, à la reconnaissance du baptême unique dans toutes les confessions chrétiennes. Elle découvrira qu'au-delà des institutions, elle porte un amour plus grand que ce que nous pouvons en dire. Et c'est cet amour-là qui est absolu et non l'institution qui le véhicule. C'est cet amour-là qui réconcilie toutes les diversités et qui propose une vie sans cesse ressuscité. Force est de constater que ce n'est pas ce que nous vivons. Chacun lutte pour sa vérité. Notre société, nos églises continuent d'élever des murs de séparation et de haine. Notre monde aussi, en dépit des expériences passées que l'histoire nous enseigne. Et cette semaine, je me suis surprise à penser que même Dieu reste assis sur le rebord du monde, comme le chante Francis Cabrel. Il pleure et il prie avec ces mots. Je ne me lasserai pas d'aimer ma création, à aimer et avoir compassion des hommes, même si leur époque est vouée à la guerre, au terrorisme, au massacre, à la violence familiale, à la violence conjugale, à la violation des droits humains, dans toutes les races, dans toutes les générations, à la destruction effrénée de l'environnement et au gaspillage. Alors c'est pourquoi l'Évangile demeure une bonne nouvelle, parce qu'il appelle chacun et chacune à la douceur, à la patience, à l'humilité. Ces mots qui rappellent succinctement le contenu des béatitudes. C'est pourquoi Paul insiste sur ce verbe « supportez-vous les uns les autres dans l'amour ». Et ce verset en a fait sourire plus d'un qui l'a entendu cette semaine. Nous sommes invités à nous supporter mutuellement. Et ce verbe « supporter », nous pouvons l'entendre de deux façons. Soit dans un sens négatif, ce que nous faisons le mieux, parce que nous sommes de toute façon entourés de gens insupportables. Hein. Et peut-être que moi aussi, d'ailleurs, je suis une personne insupportable pour ceux qui m'entourent. Et être ensemble dans une communauté humaine, que ce soit l'Église ou la société, ça ne va pas de soi du tout. On sait à quel point l'autre peut nous énerver et on voit tout de suite que la patience, la douceur et l'humilité ne sont pas de mise. D'ailleurs, lorsque des enfants sont amenés à Jésus pour qu'il les bénisse dans l'évangile de Marc, et même dans l'évangile de Matthieu aussi, eh bien les disciples empêchent les enfants d'accéder à Jésus. Ils rabrouent, c'est le terme employé, ceux qui les ont amenés à Jésus. Ils ne veulent pas être dérangés dans leur édification. Ils ne veulent manquer sous aucun prétexte l'enseignement de Jésus. Et nous connaissons bien cette situation. Mais heureusement, supporter ou se supporter peut être compris dans un sens positif, puisque l'étymologie du mot veut dire se porter les uns les autres, se soutenir. Et j'ai été frappée que c'est ce terme qui a été employé pratiquement dans toute votre confession de foi tout à l'heure. Ce qui a donné d'ailleurs le mot de supporter, alors je ne sais pas, vous savez, ces personnes qu'on a croisées là, ces jours-ci, dans les rues de Paris, qui s'engagent, quel que soit le sport, à encourager ceux qui jouent, à partager leur joie s'ils gagnent, à les soutenir s'ils perdent. Supporter l'autre, c'est une implication noble et solidaire. C'est porter l'autre quand il en a besoin. Mais c'est aussi accepter que l'autre me porte quand j'en ai besoin. C'est cela la définition même de la fraternité. Alors, c'est ce que nous essayons de vivre, tant bien que mal, en Église, mais finalement, en Église, peut-être aussi ailleurs, mais je vais prendre juste l'Église parce que c'est ce que je connais le mieux. Et finalement, le baptême est le signe que nous entrons dans cette communauté humaine qui diffuse ce message et qui espère vivre à la suite de Jésus-Christ dans la douceur, la patience et l'humilité. C'est l'Église avec un grand E. Cette communauté humaine universelle composée de toutes les diversités possibles, de personnes invitées à épanouir leur appel avec les dons qui sont propres à chacun dans la fraternité. Le baptême se célèbre au nom d'une communauté particulière, comme ce matin ici à l'oratoire, mais au nom de l'Église universelle. Ce que nous pouvons comprendre par un seul baptême, répandu sur toute la terre, dans la multitude des cultures, des institutions et des appartenances. L'Église de Jésus-Christ est une, tout simplement parce que Dieu est un. Raphaël a désormais sa place dans cette Église à part entière, avec un grand E. Cette place, elle la prendra ou elle ne la prendra pas, parce qu'elle est libre de répondre ou non à l'appel qu'elle a reçu et qu'elle recevra tous les jours de sa vie jusqu'à son dernier souffle, comme pour chacun et chacune d'entre nous, comme pour celles et ceux qui nous ont précédés. Mais c'est à nous de la, si vous me permettez, de la supporter. C'est-à-dire, dans le sens noble, de l'accueillir telle qu'elle est et de lui faire une place pour qu'elle puisse apporter le moment venu sa pierre à l'édifice. La grâce de Dieu est pour tous, certes, inconditionnelle, bien sûr, mais la réponse appartient à chacun et chacune en fonction de son chemin de foi et qui diffère selon les personnes. Cette réponse est intime, mais le moment venu, elle se partage avec d'autres, pour d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui, afin que chacun, chacune, avance encore un peu plus loin sur son chemin de vie. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le chant du cantique 229. Cantique 229, nous chanterons les strophes 1 et 4. Je vous invite à vous lever.
Prenez place. J'invite Aurore Stagliot-Thébault à me rejoindre pour partager quelques annonces.
Merci Agnès. Viens. Je vais te faire un bisou.
Oh, d'accord.
Parce que c'est une grande joie de te supporter. Non. Un immense merci pour ce message d'amour. Un immense merci aussi aux parents de Raphaël d'avoir choisi ce texte. Parce qu'en jour de la Réformation, c'est la fête. Et c'est quand même chouette de parler d'amour et de réconciliation. Surtout 50 ans après Leuenberg. La semaine est assez calme. Nous n'avons qu'une... C'est les vacances scolaires. Tu assures la pause spirituelle ce jeudi, ici même. Et également dimanche prochain, nous avons Béatrice Cléromazir qui est de retour.
Et moi, je serai au temple du Vésinet pour... présider le culte dans une paroisse où il n'y a pas de pasteur.
C'est un signe de solidarité. Voilà. Et le week-end d'après, les deux pasteurs, notre trésorier et moi-même, serons au synode régional pour discuter de réformes, justement. Et ça vaut le coup de s'accrocher par moment. Mais dimanche prochain, tu reviens après pour Parole d'amour.
Oui, je serai là pour Parole d'amour.
Donc dimanche prochain, nous reparlons d'amour l'après-midi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Parole d'amour, c'est vraiment un moment merveilleux autour de la Bible pour parler d'amour et de la vie de nous humains, j'allais dire ici et maintenant. Le thème cette année, c'est pas à pas, c'est sur la vie de chacun d'entre nous. Et la période, la semaine prochaine, c'est l'enfance. La dernière fois, c'était naissance et origine, cette fois-ci, c'est enfance et croissance. Donc ce qui se passe, c'est qu'après le culte, vous restez, vous partagez votre déjeuner avec les deux pasteurs et vous parlez d'amour sur le thème d'enfance. Donc, thème biblique.
Le texte biblique de l'enfance et de la croissance.
Agnès a cité tout à l'heure Tillich, Vouga, la Bible, bien entendu. Tous ces ouvrages sont en vente à la librairie, qui est ouverte tous les matins de 10h à 12h30. J'en profite pour remercier Vito, qui est extrêmement fidèle à la librairie, et vraiment, n'hésitez pas à passer par la librairie. Ça va être le moment de l'offrande. Tu as parlé de beaucoup de grâce. C'est un moyen de rendre grâce. Nous avons le don joyeux. Vraiment, un immense merci pour votre soutien à tous, et bon dimanche. Peut-être juste sur la scène, vous pouvez aller sur l'offrande, ce n'est pas une prière. Nous allons nous mettre en cercle. Alors nous avons un échafaudage, comme vous avez vu. Donc ce qui est important, c'est que les personnes qui sont dans la nef, comme vous êtes très nombreux, on ne fait pas un double rang. Il n'y a pas premier rang, deuxième rang. Hein. L'oratoire du Louvre, tout le monde est au même niveau. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut que vous avanciez vers l'échafaudage de façon à ce que nous fassions un très grand cercle et que tout le monde soit vraiment au même niveau et nous aiderons à se positionner en cercle également. Merci à vous.
Unissons-nous maintenant dans la liturgie de Sainte-Cène. Louons Dieu. Père, nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée mais que tu présides. Nous te louons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Nous te bénissons de nous rassembler avant que de nous envoyer et de nous disperser dans le monde. Avec ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble, c'est ton amour et le don de ta vie que nous allons recevoir. Avec ce pain et ce vin, c'est une invitation aux retrouvailles pour mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Aussi, avec tous tes enfants, celles et ceux que tu as déjà appelés ou que tu appelleras encore, qui vivent ici ou qui vivent au loin, nous célébrons ton nom et nous prenons le répond de la Sainte Cène par toi pour une fête. Dans la Cène, le Christ est l'invité qui frappe pour que nous l'ouvrions notre porte. Pourtant, c'est lui qui préside le repas. Nous nous souvenons que la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons qu'il a fait de même avec la coupe, il l'a élevée en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance versée pour la multitude. Faites cela en mémoire de moi. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, il y a des paroles et des gestes qu'on n'oublie pas. Ils résonnent et se ressentent comme une présence invisible, une confiance indicible, un souffle ténu. Nous te prions pour que ces paroles et ces gestes continuent à avoir du sens pour nos vies aujourd'hui. S'il est vrai que tout évolue et tout passe, rappelle-nous, Éternel, que l'eau du baptême, le repas partagé, le vin offert, le pain rompu restent toujours des signes de la rencontre et de la communion des uns envers les autres et de nous tous envers Jésus, Christ et envers toi, Éternel. Nous comprenons que ces gestes que Jésus a laissés à ses disciples prolongent le sens de notre existence, la raison de nos luttes et de nos engagements. Ces gestes que nous transmettons de génération en génération sont un témoignage de ce que nous avons reçu et que nous ne pouvons pas garder pour nous. Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie, dans le seul but que vivre ensemble, en famille, en église, en société soit toujours possible malgré les conflits, les guerres et les préjugés. Au moment où nous allons nous approcher de la table dite de communion, rappelle-nous que ce mot signifie non seulement partager avec l'autre le peu que l'on a, mais partager d'abord ce que nous sommes. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te louons et nous te prions pour Raphaël, ses parents, son parrain, sa marraine et l'ensemble de sa famille. Et au moment où nous nous souvenons de la Réformation et de l'anniversaire de la Concorde de Leuenberg, nous te prions pour nos églises, nos communautés, nos institutions, et permets que nous soyons toujours attentifs à nous réformer sans cesse et que nous ne perdions pas de vue la visée de la réforme. Et nous te confions le synode de l'Église catholique en réflexion depuis 3 ans et qui va bientôt rendre ses conclusions. Tu nous as confié la mission d'ériger ton royaume sur la terre. Aide-nous à agir, non pas séparément, mais ensemble. Au lieu de nous égarer dans nos propres considérations, nous voulons écouter ta voix. Pousse-nous à surmonter nos divisions et à vivre selon le commandement de ton amour. Que ton Saint-Esprit insuffle à l'Église universelle une force nouvelle et nous conduise sur la voie de l'unité. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour toutes les familles qui ont perdu un être cher. Que ta présence aimante apaise la peine de celles et ceux qui restent sans eux aujourd'hui. Chacun des noms que nous allons lire maintenant est tracé dans la paume de ta main. Donne-nous l'assurance de la résurrection de chacune des vies. Sylvie Méjean, Mireille Joissé, Huguette Fromental, née Allenbach, Clarence Jacquard-Briat, Jean-Jacques Tourneur, Camille Jean Isard, Claude Roès, Nicole Denise, née Fressay-du-Bost, Claude Gaujard, né Jouve. Hubert de Pommerie. Anne Ramamoji Ratrimo, né Tardivelle. Brigitte Harris, né Fern. Jean-Claude Margueron. Claude Rousseau, Christer Rosenquist, Bernard Lévesque, Roland Lemaire, Paul Klein, né Gounel, Claudine Guillochon, né Dumas, Michel Kolomitschouk, Bernard Pantzi, Louis-Pierre Blick, Annick François, Jacqueline Légier, Frédéric Hébrard, né Chanson, Jean-Claude Manigaud, Patrick Billet, Éternel Dieu de la vie, donne-nous la paix. Donne-nous ta paix afin que nous devenions là où nous sommes des artisans de paix. et dans cette confiance du cœur chevillée au corps. Nous te disons maintenant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons « Jésus, ta voix nous convie ». J'invite maintenant l'Assemblée à faire un cercle, un grand cercle tout autour du Temple, et nous partagerons le pain et le vin. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez. Alors, nous allons attendre que chacun ait reçu un petit morceau de pain et un petit verre de vin pour communier ensemble. Nous restons en place et nous chantons la première strophe du cantique « À toi la gloire ». Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus-Christ. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Et nous vous souhaitons un très joyeux dimanche.